Il est 18h19.
France Inter, le 18-20.
Qui est le Xi Jinping qui va célébrer en même temps que toute la Chine les 70 ans du communisme? Est-il bousculé dans son pays, dans son parti? Comment gère-t-il la crise à Hong Kong? À quoi ressemble aujourd'hui cette Chine qui veut montrer sa grandeur et sa puissance depuis Mao? Ce sera l'idée de notre dialogue avec le premier invité ce soir. Le bruit du monde est en Russie et Claude Brouillot nous emmènera au cœur de ces thérapies de conversion pour homosexuels qui ont pignon sur rue. Amélie Perrier, elle veut parler des mineurs de Marikana qui craignent de perdre leur emploi. C'est en Afrique du Sud, leur dernière grosse manifestation en 2012 avait très mal tourné. 18h50, Le Monde selon Trump et Grégory Phillips, avec un lanceur d'alerte à l'origine de la procédure de destitution contre Trump qui pourrait parler très prochainement. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, ou comment les Verts autrichiens pourraient s'allier à la droite. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Philippe Lecor.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Spécialiste de la Chine et de l'Asie du Sud-Est aussi, à l'Iris notamment. Quelle est la saveur de cette célébration demain? Est-ce qu'il y a un côté méthode Coué, tout va bien, je vais bien ou pas?
Tout va bien au nord, mais au sud, à 3000 km de là, il y a Hong Kong et il y a quand même une situation très difficile à gérer, même si les médias chinois n'en parlent pas, ou tout au moins en parlent d'une façon qui n'est pas du tout la réalité. Donc je crois que la Chine d'aujourd'hui, elle présente un certain nombre de risques, notamment économiques, notamment sociaux, et que le 70e anniversaire du Parti communiste chinois, c'est une réalité, c'est effectivement un pouvoir qui est occupé par Xi Jinping depuis maintenant 7 ans, l'homme le plus fort qu'ait connu la Chine depuis Mao Zedong lui-même.
Et qui a fait en sorte de garder ce pouvoir le plus longtemps possible d'ailleurs.
Oui, puisqu'il a maintenant, il n'y a plus de limite sur les mandats présidentiels. Il a surtout effectivement fait le vide autour de lui, il s'est débarrassé de ses adversaires. Les gens qui sont au comité permanent du bureau politique, lui, sont tous inféodés. Et à travers des campagnes anticorruption qui durent maintenant depuis 7 ans, depuis son arrivée au pouvoir, effectivement, il s'est débarrassé d'un certain nombre d'opposants.
Alors, allons-y à Hong Kong, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Effectivement, c'est le point qu'on a un peu en tête. Est-ce que la fête est gâchée par Hong Kong ou pas?
C'est-à-dire que la fête nationale, c'est le 1er octobre, c'est le 70e anniversaire, mais aussi donc non seulement à Pékin et dans le reste de la Chine, mais aussi à Hong Kong, qui est une région autonome spéciale, qui était autrefois une colonie britannique et qui célébrait d'autres fêtes. Mais aujourd'hui, elle est censée célébrer la fête nationale chinoise du 1er octobre. Et donc, les manifestants pro-démocratie, qui sont nombreux, vous savez qu'il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes dans les rues de Hong Kong au mois de juillet, et elles ont décidé, elles ont donné rendez-vous d'une certaine manière au pouvoir chinois dans les rues de Hong Kong demain. On ne sait pas très bien quelle ampleur ça prendra, mais les jours derniers, les semaines dernières ont été relativement violentes, avec une réaction très 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 virulente de la police qui infiltre également le mouvement démocratique, ce qui est quand même nouveau. C'est une manière de montrer un petit peu comment la Chine veut gérer ce problème au lieu d'envoyer la troupe comme elle l'avait fait le 4 juin 1989. Non pas à Hong Kong, mais à Pékin, je m'en souviens. Et donc, je crois que ça va être un peu compliqué de gérer cette espèce de duo de manifestations qui n'auront rien à voir. Et il n'y aura pas de feu d'artifice à Hong Kong, il n'y aura pas de célébration, puisque la fête, d'une certaine manière, a déjà été gâchée depuis 4 mois.
Alors, de toute façon, la Chine ne verra pas ce qui se passe à Hong Kong, effectivement, quoi qu'il s'y passe. Quand Xi Jinping, c'était ce matin ou hier, reconnaît le haut degré d'autonomie de la Chine, le haut degré d'autonomie d'Hong Kong. Est-ce que c'est une manière de faire un pas en arrière, de tendre un morceau de main, ou juste de rappeler quels sont les faits pour l'instant, de toute façon, de la situation de Hong Kong par rapport à Pékin?
Ce sont les faits. Un pays, deux systèmes, une déclaration conjointe sino-britannique qui a été signée en 1984, qui est en place depuis 22 ans et qui, en principe, n'autorise pas le chef de l'exécutif à extrader vers la Chine des criminels ou des dissidents, puisqu'en l'occurrence, ça aurait inclus sans doute beaucoup de gens qui n'étaient pas, dont on ne savait pas très bien quel profil ils auraient. Mais en tout cas, le système chinois, si vous voulez, reconnaît l'existence de cette zone, cette région administrative spéciale, de même que celle de Macao à côté. Maintenant, sur le long terme, il est clair que la Chine, c'est un pays qui voit le temps long et qui voit une zone qui s'appelle la Grande Baie, qui inclut Hong Kong, qui inclut Macao, qui inclut Zhuhai, et qui, d'une certaine manière, dilue cette région administrative dans une région beaucoup plus vaste, qui est évidemment chinoise.
Mais est-ce qu'il a eu peur, au fond? Est-ce que, quelque part, ça lui fait peur, à Xi Jinping, ces débordements à Hong Kong? Ou est-ce qu'au fond, il comprend absolument pas ce qui est en train de s'y passer? Est-ce qu'il craint quand même une forme de contagion ou quelque chose?
Contagion non, parce que la population chinoise est quand même relativement convaincue que ce qui se passe à Hong Kong, ce sont des terroristes, ce sont des gens manipulés par l'étranger. Enfin, ils croient un petit peu ce que leur raconte la propagande dans les médias. Tout ce qui concerne le mouvement de Hong Kong est censuré, bien sûr, dans les médias sociaux. Et on n'en parle pas, et surtout à la veille de la fête nationale. En revanche... comment est-ce que la Chine va gérer ce mouvement sur le long terme? On s'est demandé s'il n'y aurait pas une intervention militaire. Mmh. Moi, je crois plutôt à un pourrissement de la situation, avec toutes sortes d'infiltrations et surtout un redoublement de la violence qui est plus ou moins commanditée en fait par des individus qui rentrent qui passent la frontière.
Est-ce que cette gestion de la crise, est-ce que Xi Jinping est critiqué sur sa gestion de la crise en interne ou pas? Ou au fond, on a l'impression qu'il fait les choses comme il faut?
C'est-à-dire que si vous additionnez Hong Kong et le ralentissement économique et la crise sino-américaine, ça fait quand même beaucoup de choses. Et le fait que finalement son grand projet de Belt and Road, les nouvelles routes de la soie, etc., ça n'a pas reçu l'accueil peut-être qui était attendu. Les Chinois font mine de ne pas comprendre, si vous voulez, que tout le monde ne les accueille pas avec un collier de fleurs. Mais en fait, la réalité, c'est que dans de nombreuses régions du monde, il y a eu finalement des mesures qui ont été prises contre les investissements chinois dans le domaine technologique, même dans les infrastructures. Ça n'est pas un passage sans heurts de la part de la Chine.
Mais est-ce que ça pèse sur l'image de Xi Jinping à l'intérieur même de son parti? Est-ce que c'est un garçon contesté aujourd'hui, indépendamment du fait qu'il a effectivement borduré suffisamment pour être tranquille s'il souhaite l'être ad vitam aeternam? Mais est-ce qu'il est contesté à l'intérieur du parti?
En tout cas, oui. Il y a des critiques sur sa gestion de la relation avec les États-Unis. Sur Hong Kong, c'est un peu tôt pour le dire. Parce que pour l'instant, si vous voulez, certes, c'est surtout le territoire de Hong Kong qui a été finalement touché. Le tourisme est en baisse, l'économie est au ralenti. C'est une pagaille qui a été, je dirais, contenue. Mmh. Et contenue par le fait qu'il y a ce régime à part d'un pays de système. Maintenant, il va falloir régler le problème, surtout qu'ils ont en fait retiré le texte et que ça n'a absolument rien changé, puisque maintenant, les exigences sont beaucoup plus nombreuses de la part des militants démocratie, pro-démocratie. Ils veulent effectivement des élections libre, ils veulent des enquêtes, une enquête sur les violences policières et la démission de Carrie Lam qui de toute façon devrait arriver tôt ou tard, mais enfin de toute façon elle sera remplacée par quelqu'un d'autre d'équivalent et ça ne changera rien. Donc cette crise de Hong Kong qui maintenant en plus a été reprise par les Américains puisque vous savez que le Congrès américain a voté un texte sur les droits de l'homme à Hong Kong et pourrait sanctionner Hong Kong sur le plan commercial si la répression je dirais, se poursuit. Donc, ça touche aussi l'économie chinoise. Parce que Hong Kong, c'est quand même une ville chinoise. Il y a quand même des sociétés d'État chinoises cotées à la bourse de Hong Kong. Et on ne peut pas dire que c'est pas la Chine. Il y a des intérêts à garder Hong Kong, il y en a toujours eu, peut-être de moins en moins, mais en tout cas, cette crise, elle n'était pas prévue, elle avait certainement été mal gérée. Et pour répondre directement à votre question, je pense qu'ils ne comprennent pas les citoyens de Hong Kong.
Les citoyens, l'homme de la rue,
l'homme de la rue,
comprend pas ce qui se passe.
Les 2 millions, 3 millions de gens qui ne se sentent pas du tout chinois. C'est-à-dire, ils se sentent ethniquement chinois, mais ils ne se sentent pas membres de ce pays, de ce régime et de ce système qui à l'évidence, ne leur convient pas.
Alors, comment, dans les rues de Pékin, pour le coup, on voit ce 70e anniversaire, ce que disent les gens, à la fois de Xi Jinping, pour peu qu'ils puissent en dire beaucoup de choses, et comment ils imaginent aussi, à la fois les festivités, ce qui se passera derrière? C'est un reportage signé Dominique André.
Dans une capitale en état de siège, quasiment, on ne peut pas y échapper. Depuis des semaines, des dizaines de milliers de soldats, de fonctionnaires et d'étudiants répètent pour les festivités du 1er octobre. La propagande est partout, films, documentaires, banderoles rouges annonçant l'événement, spectacles préparés par les écoles. Xi Jinping veut faire grand.
Le
Le drapeau de la mère patrie rayonne comme le soleil et vole comme une colombe blanche, chante cette petite fille. Ce père de famille confirme la mobilisation dans la classe de son fils.
Le gouvernement organise beaucoup de spectacles dans lesquels il a besoin d'enfants. Donc les enfants y vont, ça va se passer au Palais des Sports.
Le ralentissement de la croissance économique, la guerre commerciale avec les États-Unis, l'augmentation du prix du porc, tout le monde en parle à Pékin. Mais tout le monde est d'accord aussi sur un point. En 70 ans, le pays s'est métamorphosé. Pour Madame Zhang, médecin à la retraite, la vie a vraiment changé.
Ces 70 ans seront grandioses. Cela montre que notre pays donne une grande importance à cette journée. Et c'est la preuve que notre pays est riche, puissant et que notre peuple est fort. Depuis la création de la nouvelle Chine jusqu'à aujourd'hui, notre pays a beaucoup changé. On était très pauvres avant. Mais maintenant, on ne manque plus de nourriture ni de vêtements. Que ce soit pour notre défense nationale ou pour notre niveau de vie, la Chine a fait un immense pas en avant.
Madame Liu n'ira pas voir le défilé, elle l'a beaucoup fait quand elle était garde rouge pendant la révolution culturelle sous Mao Tse-tung.
Quand j'étais à l'école, j'ai participé aussi à ce genre d'événement en présence du président Mao qui rencontrait les gardes rouges. Il y a des enfants qui dansent, d'autres qui portent des fleurs. Maintenant, ce n'est plus à nous de le faire, nous sommes âgés.
De toute façon, pour voir le défilé, il faut être invité. Plus de 100 000 citoyens ordinaires, pour reprendre la formule du comité d'organisation, prendront part aux festivités. La plupart des Chinois regarderont donc la télévision ou pas, comme ce jeune homme.
Cela ne m'intéresse pas tellement, ce genre de choses, même dans les périodes normales. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis concentré sur la fin de mes études. Je n'ai vraiment pas la tête à ça.
Les Pékinois marchent au pas. Les mesures de sécurité, déjà renforcées depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le sont encore plus. Restaurants, bars fermés, spectacles annulés dans les quartiers proches de l'événement. Les cerfs-volants et les pigeons, distraction favorite des vieux Pékinois, n'ont plus le droit de voler jusqu'au 2 octobre. Et tous les petits métiers qui travaillent dans la rue, comme les réparateurs de vélos ou les coiffeurs qui coupent les cheveux pour 3 sous sur le trottoir, ont dû dégager, ce qui provoque le mécontentement de Monsieur Li.
Je ne suis pas très content. Je ne peux pas gagner d'argent maintenant. Des gens sont venus me dire de dégager de là où j'étais. Si je traîne, la police va venir me chercher.
La célébration des 70 ans du régime communiste chinois sera une grande démonstration de force.
Démonstration de force, c'était Dominique André à Pékin. Merci Dominique. Philippe Lecor, démonstration de force, démonstration de puissance. On sait comment la Chine est capable de mettre tout son peuple derrière elle, y compris de manière artificielle. On le disait tout à l'heure, quand il a déclaré, acté sa toute-puissance, Xi Jinping, qu'il a même fait circuler la pensée de Xi Jinping, on avait l'impression de quelque chose d'extrêmement solide derrière cet homme-là. Est-ce que cette solidité est encore d'actualité? Est-ce que c'est un homme aimé dans les rues à Pékin, Xi Jinping, aujourd'hui?
Je pense que les Chinois sont véritablement fiers de le message qui a été donné lors du 19e congrès du parti, donc il y a exactement 2 ans, mm-hmm. en 2017. C'était clairement la Chine revient au centre de mm-hmm. au centre du monde, center stage, et Xi Jinping est celui qui l'a fait d'une certaine manière. C'est pour ça que tout ce qui va à l'encontre de son de sa politique, comme ce qui se passe à Hong Kong, comme ce qui se passe avec Trump mm-hmm. d'une certaine manière, ce sont finalement des épines dans le pied de la politique de Xi Jinping. Mais ceci dit, il est quand même contesté par certains dirigeants, par certains intellectuels qui pensent que son approche par rapport à celle de Deng Xiaoping, son lointain prédécesseur, mm-hmm. qui lui était pour faire profil bas, pour discuter avec mm-hmm. les étrangers, pour avancer discrètement, eh bien la méthode de Xi Jinping finalement, elle n'a pas que des avantages.
Parce il est
que
déboulonnable quand... ou pas?
Difficilement, mmh. en tout cas dans les 3 prochaines années, puisque le prochain congrès aura lieu dans 3 ans. Il n'est pas là pour toujours. Je ne pense pas qu'il soit là à vie. Mais en tout cas, il fait tout pour s'imposer au centre du régime. Je pense que non, il n'est pas indéboulonnable.
Est-ce que la guerre commerciale a changé des choses avec Trump, a changé des choses dans l'attitude commerciale au fond des Chinois, ou est-ce que ils sont un peu dans au contraire, on ne change rien? Et on attend que ça passe.
la bourse a beaucoup perdu, l'économie ralentit, les exportations, les entreprises. Il y a des entreprises étrangères qui se sont déplacées vers d'autres pays comme le Vietnam ou l'Indonésie. Globalement, la Chine réussit moins économiquement. En tout cas, bon, vis-à-vis des États-Unis, les échanges ont ralenti, les investissements des entreprises étrangères aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose que les Chinois voient. Donc, si vous voulez, on ne peut pas tout cacher à travers la propagande et à travers le discours politique. Il y a l'économie prime pour les Chinois.
Voilà, on ne peut pas tout cacher, mais en tout cas, ce qu'on montrera demain avec force de détail, ce sont ces défilés militaires à la gloire donc de ces 70 ans du régime. Merci beaucoup, Philippe Lecor. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
La suite du Tour du Monde, c'est le bruit du monde en Russie qui pratique sans vergogne les thérapies de conversion. Et le bruit du monde, selon Amélie Perrier, ça commence en Afrique du Sud, Amélie.
Avec des milliers de suppressions de postes dans les mines, on craint un nouveau drame social à Marikana.
Le monde selon Trump, et bonsoir à vous Grégory Phillips, le lanceur d'alerte.
Bonsoir Fabienne.
À l'origine des ennuis de Trump pourrait sortir de l'ombre.
Oui, et grande fébrilité à la Maison-Blanche, pour ne pas dire plus, avec cette histoire d'impeachment qui se profile.
Le monde à l'envers, et Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Guten Abend.
L'Autriche, bravo, est un laboratoire, c'est vrai, mais pas celui qu'on croit en fait.
Oui, peut-être une alliance droite-écolo-iconoclaste, mais pas impossible en Autriche.
Allez, à tout de suite tout le monde. Allons d'abord trouver un habit de vampire pour le week-end. Tiens, Vampire Weekend sur France Inter, Sympathy, c'est une nouveauté, et c'est dans la playlist. Le bruit du monde, c'est en Russie qu'il est ce soir et nous sommes là à Nijni Novgorod, à 400 km pardon, de Moscou. Il ne vous a pas échappé que diplomatiquement en ce moment, la France tente un rapprochement, mais sur le plan des libertés fondamentales, nos divergences sont abyssales. Exemple, une étude menée par le collectif LGBT justement de Nijni Novgorod qui laisse apparaître que sur 4200 jeunes gays, 60% ont pensé au suicide. Pour répondre à cette tendance inquiétante, deux approches psychothérapeutiques qui se confondent aujourd'hui en Russie. L'une est encouragée par la loi qui interdit depuis 2013 ce qu'ils appellent la propagande de l'homosexualité et elle n'hésite pas à aborder l'homosexualité comme une maladie. C'est un reportage édifiant signé Claude Brouillon.
Thank you. Au centre de Nijni Novgorod, 1 200 000 habitants, la cinquième ville la plus peuplée de Russie, le professeur Yann Goland a pignon sur rue. À 83 ans, ce psychothérapeute exerce déjà depuis 55 années et s'est fait progressivement une réputation à travers la prise en charge de patients homosexuels ou transsexuels qui veulent se fondre dans la majorité hétérosexuelle du pays. Fortement marqué par la période soviétique, durant laquelle l'homosexualité était un délit puni de prison ferme, le docteur Goland raconte volontiers l'histoire de cet astronaute homosexuel qu'il a dû soigner officiellement pour une névrose. Il nous diffuse également des vidéos de patients homosexuels volontaires, dit-il, venus pour certains d'anciennes républiques soviétiques pour se débarrasser de leur homosexualité.
Je suis à contre-courant, ce n'est pas ma nature. C'est inconcevable pour moi, je ne veux pas ça.
Quand vous êtes-vous aperçu pour la première fois que vous n'étiez pas comme tout le monde ?
Je m'en suis aperçu dans ma petite enfance.
Ce patient, comme beaucoup d'autres, a été guéri et est devenu hétérosexuel, ajoute fièrement le docteur Goland. À raison de 100 euros la séance de 2 heures, le praticien de Nijni Novgorod dit avoir traité efficacement, souvent grâce à l'hypnose, plus d'une centaine de cas, avec toujours le souci de donner à ses patients homosexuels le bonheur qu'ils n'auraient, sans son intervention, assure-t-il, jamais connu.
Que ce soit l'ancienne psychiatrie ou la nouvelle, ou la sexopathologie, il y a une opinion qui existe. Un homosexuel heureux, c'est une personne qui est déjà dans le cercueil. Ce sont les patients eux-mêmes qui disent que c'est une maladie. Ils ont reconnu qu'ils ont changé d'opinion sur leur désir sexuel. Ils ont changé eux-mêmes. Je travaille avec les homosexuels qui veulent avoir une vie active hétérosexuelle, une vie sexuelle normale.
À quelques centaines de mètres des bureaux du docteur Goland, la communauté LGBT de Nijni Novgorod a ouvert son propre cabinet de psychothérapie.
Bonjour, bonjour, rentrez. Ici, on pratique la psychothérapie et la psychoanalyse.
Yevgeny Charikin, 25 ans, est au service de ses patients et dénonce l'approche du docteur Goland.
Dans le contexte actuel de la loi contre la propagande homosexuelle, c'est une nouvelle mode de considérer que l'on peut guérir ou corriger l'homosexualité comme on le fait avec une maladie. En général, les gens viennent chez le docteur à la demande des parents. Je le sais parce que je suis psy dans le centre LGBT, ici, à Nijni Novgorod. Et les patients viennent après être passés chez lui. Ces histoires qu'il raconte, ces méthodes du docteur Goland sont inhumaines. En dehors des standards internationaux de la psychothérapie et de la psychanalyse.
Retour à Moscou, où d'autres psychothérapeutes, dans le sillage du docteur Goland, mais avec l'affichage en moins, abordent également la question de l'homosexualité comme une pathologie. Un courant combattu par le docteur Yuliana Yurevna, qui travaille depuis 12 ans sur cette population spécifique.
L'identité du genre et l'orientation sexuelle sont les bases fondamentales de la personnalité. Je ne crois pas que l'on puisse changer ça d'une manière générale, quelle que soit la méthode. Bien sûr, l'hypnose peut probablement aider s'il y a eu un traumatisme sexuel et si l'on parle d'un comportement sexuel de compensation. Mais si l'on considère l'orientation sexuelle réelle et que l'on veut transformer par exemple un homme en femme, on n'y arrivera pas, c'est une perte de temps.
Difficile aujourd'hui de mesurer le degré d'influence de ces deux courants qui se font face, mais dont l'un se sent encouragé par les dernières mesures du pouvoir russe qui interdisent notamment la propagande de l'homosexualité. Alexander Artemiev est le porte-parole d'Amnesty International en Russie.
Les psychothérapeutes russes, ils prennent part dans les conférences internationales et tout cela. Et donc, s'ils entendent plus et plus qu'on ne peut pas traiter l'homosexualité comme une maladie psychiatrique, peut-être ça va impliquer leurs attitudes. Mais de plus, bien sûr, nous devons combattre plutôt l'homophobie au niveau de l'État, parce que là, nous voyons bien sûr toutes les racines de cette situation dans la médecine aussi.
Claude Brouillot qui signe ce reportage pour Un jour dans le monde en Russie. Merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, ça donne ça. Et Amélie Perrier, vous nous replongez dans les manifestations qui ont traumatisé l'Afrique du Sud. C'était celle des mineurs de Marikana.
En 2012, à l'époque, les forces de l'ordre avaient brutalement réprimé ce mouvement social. La police avait abattu 34 personnes. Les autres mineurs dans le pays avaient alors cessé le travail. D'autres heurts avaient provoqué des dizaines de morts supplémentaires. Alors aujourd'hui, quand on apprend qu'une compagnie minière veut supprimer plus de 5000 emplois à Marikana, cela fait évidemment la une des chaînes d'infos continues.
Good afternoon to you. Let's get straight to the stories. We've just headlined the mining company Sibanye-Stillwater planning a job cuts. Something in the region of around 5,000.
Ici, par exemple, c'est INCA, chaîne d'infos continues. Et donc, on comprend, la compagnie Sibanye-Stillwater annonce une restructuration en raison de grosses pertes financières. Elle précise que plusieurs puits ont atteint leur fin de vie également. Le secteur est aussi victime des variations des cours des matières premières. Avant, il était parmi les principaux contributeurs de la richesse d'Afrique du Sud, mais le déclin est là. L'an dernier, d'autres compagnies coupaient dans leurs effectifs, laissant des milliers de chômeurs derrière elles. Aujourd'hui, Sibanye-Stillwater emploie 26 500 personnes. C'est le plus gros pourvoyeur de travail dans les mines sud-africaines. Elle extrait de l'or et cette année, donc, elle a racheté un autre géant qui produit du platine et qui possédait donc Marikana. Ce plan de suppression de postes s'ajoute à un premier plan social. 6 000 emplois de moins présentés en début d'année. Le pays tremble désormais des risques de grève et d'embrasement, comme en 2012.
La Guinée-Conakry, Amélie, bouillonne également ce soir.
La Guinée, là, on est en Afrique de l'Ouest, au bord de l'Atlantique, entre le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Un État dirigé par Alpha Condé, au pouvoir depuis 9 ans. Le président a déjà fait 2 mandats, la limite fixée par la Constitution. Une petite phrase prononcée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine dernière, mais aujourd'hui, le pays en ébullition.
Donc, vous allez, je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections.
Je vous demande de vous organiser, de vous préparer pour le référendum et les élections, dit-il à des compatriotes, loin des caméras. Là, c'est un participant à la réunion qui filme avec son portable, d'où la piètre qualité du son. Et ses partisans d'applaudir quand ils entendent le mot référendum, car ce référendum n'aurait pour but que de modifier la loi fondamentale et de permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les opposants dénoncent un projet de coup d'État constitutionnel et des velléités dictatoriales de la part de celui qui, en 2010, fut pourtant le premier président élu démocratiquement dans le pays, connu pour avoir passé des années en prison et pour s'être élevé contre les différents régimes autoritaires. Si le pouvoir tente de désamorcer en mettant en doute le montage de cette vidéo pirate que l'on vient de vous diffuser, en parlant de propos sortis de leur contexte, aujourd'hui, pour l'opposition, la ligne rouge est franchie, plus aucun doute n'est possible. Les consultations menées par le Premier ministre ont été une mascarade, selon les contestataires.
Et puis Amélie, on était en Russie tout à l'heure, on y retourne. On parle souvent ici de Pavel Oustinov, le jeune acteur arrêté en marge d'une manifestation. Quelle nouvelle ?
Oui, accusé à tort de rébellion, condamné à 3 ans et demi de prison. De nombreuses stars de cinéma, de théâtre et de télévision et des prêtres orthodoxes étaient mobilisés pour lui, y compris des personnalités connues pour avoir de la sympathie pour le Kremlin. Et bien, face à la fronde, la justice recule. Aujourd'hui, on apprend qu'un tribunal de Moscou commue sa peine de 3 ans et demi en une année avec sursis, un recul très rare en Russie.
On reste en Russie avec des jeunes qui marchent pour leur réussite.
Oui, il y a quelques jours, au lendemain des grandes manifestations de jeunes partout sur la planète, à Ekaterinbourg, 4e ville de Russie en Sibérie occidentale, des collégiens et des lycéens ont bravé les éléments. Au Seigneur, dit cette jeune fille sous sa capuche, je t'en prie, aide-moi avec les autres élèves à étudier avec assiduité, à n'avoir que des bonnes notes. Et oui, c'était donc une procession pour les écoliers à l'occasion de la rentrée scolaire. Environ 1500 personnes, les enfants et les parents, ont marché 8 kilomètres sous la pluie entre le temple de l'icône Vladimir et le monastère Ganina Yama. Le Moscow Times, qui nous rapporte cette drôle de marche, insiste sur le fait que l'an dernier, les élèves avaient déjà fait cette procession, déjà sous la pluie. Et oui, il faut les mériter, ces bonnes notes.
Enfin, on espère que ça marche, surtout. Amélie Perrier, les bruits du monde, par-dessus les radars. Merci beaucoup. À demain. Tiens, Diana Krall sait à quoi ressemble l'amour de Look of Love. Eh ben, elle a de la chance. Of Love, signé Diana Krall sur France Inter. L'Amérique, c'est juste après le jingle.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le monde selon Trump, saison 3, avec un président, Grégory Phillips, qui a le tweet rageur en ce moment, en pleine tempête, donc depuis le début de cette procédure de destitution lancée par les démocrates. On connaît le nœud du problème, vous nous l'avez longuement expliqué, Grégory, la semaine dernière. Ce coup de fil fin juillet, passé par Trump à son homologue ukrainien pour lui demander des infos compromettantes sur son rival Joe Biden. Tout ça révélé par un lanceur d'alerte travaillant à la Maison Blanche. Alors allez-y, dites-nous, puisque on est entre nous, vous connaissez le nom de ce lanceur d'alerte, allez-y, balancez tout.
Alors non, je ne sais pas qui est ce lanceur d'alerte, je suis vraiment désolé.
C'est vous, Grégory.
Et si je le savais, ce serait un scoop à la Bob Woodward et Fabienne, je mettrais un petit peu les formes avant de vous le dévoiler. En tout cas, le New York Times croit savoir que c'est un homme employé de la CIA, connaisseur du dossier ukrainien et qui a été un temps affecté à la Maison Blanche. D'ailleurs, le Times a été vivement critiqué ici pour avoir dévoilé ses bribes d'informations et pris le risque de compromettre son anonymat. En tout cas, tout Washington cherche à savoir qui est ce whistleblower, comme on dit ici, qui n'a pas été un témoin direct de la conversation entre Trump et Zelensky, mais qui a été saisi par plusieurs responsables de la Maison Blanche. Exemple de quelqu'un qui veut savoir, le représentant républicain Lindsey Graham, un proche de Trump, hier matin sur CBS.
Je n'arrive pas à croire qu'on parle de destituer le président sur la base de ses accusations. De ce, qu'en dira-t-on? C'est qui ce lanceur d'alerte? Pourquoi est-ce qu'on l'a pris lui? Pour raconter cette histoire de deuxième main? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça pue.
Voilà, ça pue, c'est clair. Normalement, ce lanceur d'alerte doit bientôt témoigner devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, à huis clos, encore une fois, pour préserver son anonymat. Et ses avocats disent aujourd'hui craindre pour sa sécurité.
Alors, c'est vrai qu'on se croit un peu dans House of Cards, mais s'il est protégé, c'est parce que Trump lui-même l'a menacé, non ?
Oui, je vais vous remettre dans l'oreille ce que Donald Trump disait jeudi dernier lors d'une réunion à huis clos avec des diplomates américains à New York. C'est le Los Angeles Times qui a récupéré cet enregistrement audio. Voilà, traduction, mais qui a donné ces infos à ce lanceur d'alerte? Parce que c'est de l'espionnage, et vous savez ce qu'on faisait des espions et des traîtres au bon vieux temps? On s'occupait d'eux un peu différemment. Voilà, rire dans la salle, c'est d'ailleurs, assez glaçant. Ouais. En tout cas, dans un tweet hier soir, Donald Trump disait qu'il voulait rencontrer son accusateur. Trump, qui ce matin sur Twitter parle de risque de guerre civile, et fait mine de s'interroger. Faut-il arrêter pour trahison le représentant démocrate Adam Schiff qui préside cette commission du renseignement? Vous voyez, Fabienne, on sent quand même une grande fébrilité en ce moment à la Maison-Blanche.
Et peut-être aussi parce que sur cette procédure d'impeachment, apparemment, de plus en plus d'Américains sont pour, et évidemment, ça compte.
Oui, alors, dernier sondage ce week-end, sans surprise, 90% des démocrates approuvent l'ouverture de cette enquête en destitution, mais plus globalement, 55% des Américains interrogés y sont également favorables. 55%, Fabienne, il y a même des républicains qui sont troublés, on va dire, par tout ça. Voici Tracy d'Oklahoma, que j'ai rencontré vendredi devant la Maison Blanche.
Je pense qu'il a fait une erreur. Ce n'est pas un professionnel de la politique. Il n'a pas menacé l'Ukrainien. Il ne lui a pas dit « fais ça » ou bien alors. Il lui a juste dit « est-ce que tu peux me rendre un service ?» Comme je viens de le dire, Trump n'est pas un politicien. Parfois, il ne sait pas ce que l'on peut dire ou pas en politique.
Le calendrier maintenant, tout ça va aller assez vite. La Chambre des représentants sera amenée à voter l'impeachment sans doute dans les prochaines semaines. On nous dit peut-être avant la fin novembre. Et là donc, on se dirigera vers le Sénat pour un procès en destitution. Ça pourrait prendre encore un mois ou deux. Mais on l'a déjà dit, Fabienne, il y a quasiment aucune chance pour que ça passe au Sénat. Pour la destitution d'un président, je le rappelle, il faut le vote de 2/3 des sénateurs. Et pour l'instant en tout cas, les républicains majoritaires au Sénat sont soudés derrière le président.
Merci beaucoup Grégory Phillips, on est un peu en retard, du coup vous nous parlerez la prochaine fois des cocktails impeachments qu'on va boire forcément à Washington pendant les deux mois qui viennent et aussi de la nourriture du même genre. Merci beaucoup Grégory.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'Autriche, on le sait, a voté hier. Le centre droit du jeune Sébastien Kurz s'impose à nouveau, mais le jeu des alliances pourrait être rebattu par ce petit pays mais majeur par le poids politique en Europe. L'alliance droite-extrême droite pourrait avoir du plomb dans l'aile. Et pourtant, même si c'est une hypothèse, elle pourrait laisser la place à une alliance droite-écologiste, ce qui serait une sacrée première. C'est votre Monde à l'envers.
Oui, alors pour comprendre, il faut d'abord faire un flashback. Il y a deux ans, la droite autrichienne du EVP forme, à l'initiative de son chef de 31 ans, Sébastien Kurz, une coalition de gouvernement avec l'extrême droite du FPE. De nombreux commentateurs y voient alors un signe précurseur, un poste avancé de l'évolution de l'Europe. Le tabou est tombé. À dire vrai, il était déjà tombé une première fois en 2000 en Autriche, mais ça avait suscité un tollé international. Alors que là, cette fois, il y a deux ans, pas de tollé. L'affaire semble sceller la progression alors irréversible des extrêmes droites et leur vocation, dans la foulée d'Orban en Hongrie, à s'allier avec la droite. Et on parle bien là d'une extrême droite autrichienne aux positions radicales, c'est-à-dire anti-islam, anti-migrant, volontiers nostalgique d'Hitler de temps en temps. L'Europe, donc dans son centre même, cette Mitteleuropa tellement importante dans l'histoire du continent, semble basculer à nouveau vers l'extrémisme. Nous voilà 2 ans plus tard, le paysage a changé, l'expérience dans le laboratoire a dératé. Les partis d'extrême droite n'ont pas eu les succès qu'ils espéraient aux élections européennes, aux Pays-Bas ils reculent, en France ils stagnent, en Italie Salvini n'est plus au pouvoir. Et voilà qu'en Autriche, l'extrême droite hier recule de 10 points, revenu à 16-17%, notamment après un scandale qui a vu son ex-leader prêt à être corrompu par un faux oligarque russe.
D'où l'hypothèse d'un autre laboratoire toujours en Autriche.
Oui, alors la presse autrichienne aujourd'hui se passionne pour ce scénario, une coalition droite écologiste. Cette option, on l'a pas vu venir parce qu'on était aveuglé par la précédente, hein, l'axe droite-extrême droite. Elle est possible pourtant pour plusieurs raisons. D'abord pour une histoire d'arithmétique. Le centre droit autrichien l'emporte largement, 37% des voix, mais il n'a pas la majorité à lui seul, il lui faut un allié. Et les Verts autrichiens enregistrent la plus forte progression du paysage politique, plus 10 points à 14%. Dans cet arrondissement de la capitale Vienne, ils arrivent même en tête en dépassant parfois les 30%. Résultat, le centre droit de Kurz, avec ses 71 députés, aurait la majorité soit en s'alliant à nouveau avec l'extrême droite, soit en s'alliant cette fois, virage à 180 degrés, avec les écologistes qui vont compter une grosse vingtaine d'élus. Deuxième raison, la question environnementale, en Autriche comme ailleurs, gagne du terrain. Elle a devancé la question migratoire lors de la campagne. Et puis l'Autriche est déjà un leader européen, par exemple en matière de consommation d'énergie renouvelable. Troisième raison, Sébastien Kurz n'est pas tout à fait celui que l'on a décrit, justement parce qu'on se focalisait sur son alliance avec l'extrême droite. Il est, c'est vrai, très ferme sur les questions migratoires, mais il est résolument pro-européen, opposé à la sortie de l'euro, il a voté les sanctions contre le Hongrois Orban, il est donc en partie compatible avec les écologistes.
Enfin, on n'y est pas encore, hein. Jean-Marc, vous êtes en train de faire de la politique fiction, on n'y est pas encore.
Oui, c'est sûr, il y a plein d'obstacles. Le centre droit de Sébastien Kurz reste opposé à des mesures emblématiques réclamées par les Verts, comme la taxe carbone, la taxe diesel. De façon plus globale, ces deux partenaires éventuels auraient du mal à s'entendre sur la politique économique. C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Et puis, Sébastien Kurz est imprévisible, c'est un calculateur assez opportuniste. Il fera d'abord le pari qu'il juge le plus efficace. Ses vrais choix sincères restent un peu mystérieux. Les négociations, dit-on, pourraient donc durer des mois. Mais le fait est là, après ce scrutin, l'hypothèse d'une coalition droite écologiste n'est plus absurde. Et ça, c'est sans précédent en Europe. Le laboratoire autrichien est donc à l'œuvre, mais peut-être pas dans le sens dont tout le monde cause depuis 2 ans. Et le choix de Kurz, continuer à s'allier avec l'extrême droite ou se tourner vers les écologistes, enverra un signal bien au-delà des frontières autrichiennes.
Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup. Sébastien Paour est là et c'est juste après ça.